Imaginons la scène un instant. On est le 2 septembre 2026.
D'accord, je visualise.
Une entrepreneure indépendante, une prestataire de services qui travaille sagement depuis son salon, se lève, elle ouvre sa boîte aux lettres et paf, elle découvre un courrier des impôts.
Aïe, ça commence mal.
Grave. Et à l'intérieur, il y a une amende ferme de 1000 euros. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que cette personne, elle n'a fraudé personne.
Ah ouais?
Ouais, elle a déclaré tout son chiffre d'affaires, elle a payé toutes ses cotisations, mais cette amende, elle tombe juste parce qu'elle a oublié d'ouvrir une espèce de boîte aux lettres numérique obligatoire.
Et c'est un scénario qui risque malheureusement d'arriver à des milliers de personnes si on prend pas le temps de décrypter ce qui se prépare en fait.
C'est clair, et c'est pour ça qu'on est là.
Exactement. Cette fameuse date de l'automne 2026, c'est vraiment le point de bascule de la plus grande réforme administrative de ces dernières années en France, l'arrivée de la facturation électronique obligatoire.
Et rien qu'en prononçant le mot « réforme », on sent l'anxiété grimper.
Ah c'est sûr.
On pense tout de suite à une montagne de paperasse, à des démarches complètement incompréhensibles et à des nuits blanches sur le site des impôts.
C'est le grand classique français.
Voilà. Donc aujourd'hui, dans notre plongée au cœur de l'actu, on va prendre ce sujet à bras-le-corps. L'objectif, c'est pas de faire un cours magistral de droit fiscal. On va plutôt se mettre à la place d'une entrepreneure indépendante.
Tout à fait.
Quelqu'un qui vend des services, qui est pas du tout experte en comptabilité et qui veut juste comprendre ce qui change concrètement.
Ce qui est bien normal. On a épluché pas mal de sources pour ça, d'ailleurs.
Oui, on a regardé des vidéos d'experts comptables, des plateformes comme Doux Compta, Ebi, la chaîne Julien Entreprendre Facilement.
On a aussi lu des blogs spécialisés comme Elles sont Meraki ou Penny Lane, sans oublier bien sûr les communications officielles de la DGFiP.
La fameuse Direction Générale des Finances Publiques. Donc notre mission, là, c'est de traduire tout ce jargon en mots simples, de lister les dates clés sans panique et de donner une to-do list claire pour alléger la charge mentale.
Et honnêtement, la sérénité est tout à fait possible. Il y a beaucoup de fausses infos qui tournent, souvent poussées par des gens qui veulent créer la panique pour vendre des trucs.
Évidemment.
Mais si on comprend la mécanique de base, on se rend vite compte que les logiciels, ils vont absorber 90% de la complexité.
Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais on va quand même commencer par un petit deuil.
Lequel ?
Le deuil d'une vieille habitude. Parce que pour plein d'indépendants, faire une facture, c'est un peu un rituel artisanal.
Oh que oui, le fameux fichier.
C'est ça, on ouvre un modèle sur Word, sur Excel ou même sur Canva, on change la date, on met un petit logo sympa, on exporte en PDF et on l'envoie par email avec un petit message. C'est simple.
C'était simple, oui.
Mais si j'ai bien compris les sources, ça c'est fini.
C'est terminé, du moins pour les transactions entre professionnels. L'État change complètement de logique en fait.
C'est-à-dire ?
Jusqu'à présent, une facture c'était fait pour être lue par un humain. Un PDF pour un ordinateur, c'est comme une photo.
Une image plate, quoi.
Fait des erreurs. La solution de l'État, c'est donc la vraie facture électronique, ce qu'on appelle souvent le format Facturix.
Facturix, ouais. Moi, en lisant nos sources, la meilleure image qui m'est venue, c'est un peu comme envoyer une lettre avec de l'encre invisible.
Ah, c'est une super analogie, ça. C'est exactement ça. Le format Facturix a littéralement deux couches superposées.
Donc, la première couche, c'est pour l'humain. C'est le PDF classique. Il y a le logo, la mise en page. On peut le lire normalement.
Tout à fait.
Derrière ça, il y a la deuxième couche. Un fichier de code, en langage XML, je crois. C'est ça, l'encre invisible.
C'est ça. Et c'est cette couche cachée qui intéresse l'État. Ce fichier XML, il contient pas des phrases, mais des balises de données super bien rangées.
Genre quoi comme balise ?
Par exemple, au lieu d'avoir un texte visuel qui dit « total de la facture », le fichier a une balise informatique qui dit « tax basis total amount », suivi du montant exact au centime près.
Ok, donc quand le robot des impôts reçoit ça, il regarde même pas le joli logo ?
Pas du tout. Il aspire la donnée de la balise en une fraction de seconde avec zéro erreur.
D'accord, mais je me mets à la place d'une graphiste freelance, par exemple. Pourquoi l'État a soudainement envie de scanner toutes les factures du pays en une seconde ?
C'est une histoire de gros sous, clairement. L'objectif numéro un, c'est la lutte contre la fraude à la TVA.
L'argent, toujours l'argent.
Oui.
La TVA, c'est un impôt très fragile, parce que ce sont les entreprises qui le récoltent pour l'État, avant de lui redonner.
Oui, on fait un peu les percepteurs.
C'est ça, et le temps qui passe entre l'émission de la facture, le paiement et la déclaration, ça a permis des fraudes massives, les fameuses arnaques à la taxe carbone, par exemple.
Ah oui, les trucs qui ont coûté des milliards.
Exactement. Donc là, en exigeant ces fichiers invisibles, presque, en temps réel, l'État se branche directement sur le flux de l'économie. La fraude devient super dure à faire.
Bon, ça m'amène à une question existentielle pour beaucoup de gens. Énormément de petits entrepreneurs, surtout au début, ils sont en franchise en base de TVA.
Oui, les micro-entrepreneurs. Voilà, ils facturent pas de TVA, ils mettent juste la petite phrase en bas, TVA non applicable. Et naïvement, on pourrait se dire, bah super, cette usine à gaz pour traquer la TVA, ça me concerne pas, je garde mon Word.
Et bah c'est là que le piège se referme. C'est une confusion énorme sur le web.
Ah bon ?
Oui, parce que juridiquement, même sans facturer la TVA, un micro-entrepreneur reste un professionnel qu'on appelle assujetti à la TVA.
Donc il est dans le système ?
Complètement. Il a juste une tolérance temporaire pour pas la payer. Donc la réforme s'applique à tous les assujettis. Zéro exception.
Waouh, d'accord. Donc la micro-entreprise devra aussi faire des factures FactureX avec le code caché ?
Oui, comme une grosse boîte. La seule différence, c'est que le logiciel de facturation mettra un joli zéro dans la balise de la TVA, c'est tout.
C'est fou, parce qu'on choisit souvent ce statut pour avoir la paix avec l'administratif.
Je sais bien, c'est frustrant.
Bon, admettons, on a ce fichier hybride. Mais puisqu'on a dit que le PDF par Gmail, c'était fini, comment ce fichier va voyager jusqu'au client ?
C'est là que ça devient intéressant. Les emails, c'est pas sécurisé. Donc les factures vont devoir passer par des tuyaux spéciaux, fermés et validés par l'État.
Les fameuses PDP.
Voilà, les plateformes de dématérialisation partenaires.
Encore un acronyme bien de chez nous, ça. Pour rendre ça plus clair, on pourrait dire que c'est comme si on arrêtait d'utiliser la poste normale pour utiliser uniquement des coursiers privés ultra sécurisés et l'État vérifie chaque colis.
C'est une super image. En gros, demain, le logiciel de facturation de l'entrepreneur va devenir une boîte aux lettres intelligente.
Concrètement, je fais ma facture. Et après ?
Après, tu valides et au lieu de taper l'email de ton client, tu tapes son numéro sirène.
Ah, son sirène ! Et là, le logiciel cherche tout seul ?
Exactement. Il va interroger un annuaire géant de l'État pour savoir chez quel coursier, donc sur quel PDP, le client est inscrit.
Ok.
Et pouf, il livre la facture directement dans le logiciel du client et au passage, il envoie une copie des données aux impôts.
C'est hyper efficace. Mais attends, il y a un énorme problème dans ce que tu viens de dire.
Ah bon ? Lequel ?
Mettons que je suis coach de vie indépendante. J'ai deux types de clients.
Ok.
Le matin, je coach une chef d'entreprise. Elle a un sirène, elle a une PDP, le tuyau marche. Mais l'après-midi, je coach un particulier, un père de famille par exemple. Lui, il n'a pas de sirène, il n'a pas de boîte aux lettres officielle de l'État. Comment lui envoie ma facture sécurisée ?
Ben tu peux pas. Et c'est pour ça que la loi a prévu deux mécanismes séparés.
Ah ! Raconte.
Ce qu'on vient de décrire, l'envoi dans le tuyau via le sirène, ça s'appelle le e-invoicing, la facturation électronique pure. Et ça ne s'applique qu'aux ventes entre deux professionnels en France.
Le fameux B2B domestique.
C'est ça. Mais pour ton père de famille, on passe au deuxième mécanisme, qu'on appelle le e-reporting.
E-reporting. Et ça change quoi pour lui ?
Pour le client particulier, rien du tout. Tu continues de lui faire une facture normale ou un reçu, et tu lui envoies par email en PDF classique.
Ouf, ok. Et si ma cliente dirigeante de tout à l'heure, elle est basée au Québec ou en Belgique ?
Pareil. Comme elle n'est pas dans le système français, c'est du e-reporting. Elle reçoit un PDF normal.
Bon, le client final n'est pas embêté, mais je sens qu'il y a un mais pour l'indépendante.
Évidemment. L'État veut quand même savoir ce qui se passe. Puisqu'il n'a pas vu la facture passer dans le gros tuyau sécurisé, c'est à toi de lui dire.
Aïe.
En gros, tous les mois, ou tous les deux mois, selon les cas, tu vas devoir envoyer un résumé à l'État. Un fichier qui dit genre « ce mois-ci, j'ai gagné tant avec des particuliers ou à l'étranger ».
C'est comme prendre mon bon vieux cahier de recettes, le numériser et l'envoyer aux impôts pour boucher les trous ?
Exactement. Et attention, ce fameux e-reporting, il s'applique aussi à certains de tes achats.
Attends, mes achats ? Pourquoi mes achats ?
Parce que si tu achètes des services à des boîtes étrangères, comme un abonnement Canva, Zoom ou Google pour tes emails professionnels...
Bah oui, on utilise tous ça.
Ces grosses boîtes américaines, elles sont pas dans le tuyau français de e-invoicing.
Bah oui, logique. Elles m'envoient un PDF bête.
C'est ça. Donc c'est à toi de déclarer ces achats étrangers à l'administration française via le e-reporting, notamment pour gérer les histoires de TVA.
Mais c'est l'enfer. Si chaque mois, je dois lister à la main mes abonnements Zoom et mes factures de coaching pour faire un rapport à l'État, la charge mentale va exploser.
Alors rassure-toi tout de suite, personne ne va faire ça à la main.
Ah, tu me rassures.
Le salut, c'est vraiment l'automatisation. Les bons logiciels de facturation d'aujourd'hui, ils sont en train d'intégrer tout ça.
Donc mon logiciel fera le tri.
Ouais. Tu connectes ton compte bancaire, tu factures, et à la fin du mois, le logiciel repère tout seul ce qui n'était pas du B2B français. Il fabrique le fichier récapitulatif et il l'envoie aux impôts en tâche de fond.
Bon, ça demande juste d'avoir le bon outil, quoi.
Exactement. Et surtout, de l'avoir au bon moment.
Et ça nous amène au vrai sujet qui fâche, le calendrier. Quand j'ai regardé les sources, franchement, la façon dont c'est structuré, ça m'a paru d'une logique complètement tordue.
C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. Le calendrier a deux grandes dates. Il faut séparer l'obligation de recevoir et l'obligation d'émettre.
Alors, première date, le 1er septembre 2026. Ce jour-là, absolument toutes les entreprises de France, du petit freelance au grand groupe, doivent être capables de recevoir une facture électronique.
C'est ça.
Et la deuxième date, c'est un an plus tard, en septembre 2027. Là, les petits indépendants devront commencer à émettre des factures électroniques.
Oui, réception en 2026, émission en 2027.
Mais pardon, pourquoi obliger une graphiste freelance à installer un super logiciel de réception en 2026, un an avant qu'elle s'en serve pour ses propres ventes? Ça n'a pas de sens.
Je comprends la réaction. Mais il faut regarder qui va émettre en 2026. Le 1er septembre 2026, les très grandes entreprises, elles, ont l'obligation d'émettre.
Ah, les grandes entreprises. Nos fournisseurs, en fait.
Voilà. EDF, Orange, la SNCF pour tes billets de train pro. En 2026, Orange ne va plus t'envoyer de PDF pour ta box Internet. Ils vont chercher ton sirène et envoyer ça dans le tuyau.
Et si moi, petite indépendante, je me suis dit que je gérerais ça en 2027, bah j'ai pas ouvert ma boîte aux lettres.
Et donc la facture d'Orange, elle tape dans un mur. Elle n'arrive jamais chez toi.
Et si j'ai pas la facture, je peux pas justifier ma dépense pro et je peux pas récupérer de la TVA.
Exactement. Le réseau doit être installé partout avant d'allumer la centrale. C'est pour ça qu'on oblige tout le monde à être prêt à recevoir dès 2026.
Bon, techniquement, c'est imparable. Mais psychologiquement, dire aux gens « vous devez vous équiper un an à l'avance », ça ouvre grand la porte aux arnaques.
Oh là là, oui. Le marché de la peur administrative, ça marche très fort. Surtout avec les amendes qui sont prévues.
Bah, parlons-en des amendes. En 2027, pour l'émission, ce sera 15 euros par facture non conforme. Ça va, c'est plafonné. Mais l'autre amende, celle de 2026 pour la réception.
Celle de notre scénario du début.
Ouais. Si t'as pas ta boîte aux lettres au 1er septembre 2026, c'est 1000 euros d'amende. Par trimestre en plus, je crois.
C'est ça. Et là, les commerciaux peu scrupuleux s'en donnent à cœur joie.
Ah, j'imagine trop l'appel téléphonique. Bonjour, ici le service conformité de l'État. Votre sirène n'est pas enregistrée. Vous risquez 4000 euros par an. Mais bonne nouvelle, prenez notre abonnement premium à 49 euros par mois pendant 3 ans et on vous sauve la mise.
C'est exactement ce qu'on commence à entendre, et parfois même de la part de certaines banques qui profitent du flou pour vendre des options hors de prix.
Donc, comment on fait le tri? Comment l'indépendante qui nous écoute sait si elle a affaire à une vraie plateforme ou à un escroc?
La règle d'or, pour se rassurer, c'est qu'il n'y a aucune obligation de payer cher. L'État a une liste officielle des plateformes partenaires, et surtout, les bons logiciels de facturation que les indépendants utilisent déjà sont en train de faire les mises à jour gratuitement.
Donc si j'ai déjà un bon outil en ligne, il va juste évoluer et devenir ma boîte aux lettres sans que j'ai besoin de souscrire un truc en plus.
Voilà. D'ailleurs, l'Ordre des experts comptables travaille aussi sur une solution pour les clients des cabinets. Quoi qu'il arrive, si quelqu'un vous met la pression en hurlant à l'urgence, c'est un énorme drapeau rouge. Fuyez.
Bon, on a vu la technique, le calendrier, les arnaques. Il est temps de repasser à l'action. On va alléger la fameuse charge mentale.
C'est le moment de la to-do list.
Si l'entrepreneur nous écoute en marchant ou en faisant la vaisselle, c'est quoi les petites étapes concrètes à noter dans sa tête, là, tout de suite?
Étape 1, la plus simple. Regardez comment on facture aujourd'hui. Si c'est sur Word, Excel ou Canva, c'est le moment d'arrêter. Faut commencer à chercher un vrai logiciel de facturation en ligne.
Ouais, un outil moderne, quoi. Et pour celles qui utilisent déjà des grosses plateformes pour vendre des formations en ligne, par exemple?
Ça, c'est l'étape 2. Faut poser des questions à vos partenaires. Envoyez un petit mail au support de votre outil pour demander comment il prépare la réforme de la facture électronique française. Pareil avec votre comptable, demandez-lui ce qu'il a prévu pour le cabinet.
Ok, communication. Et pour l'étape 3, c'est pour éviter l'amende de 2026, j'imagine.
Exactement. Avant l'été 2026, il faudra s'inscrire sur une plateforme de réception. Que ce soit votre propre logiciel mis à jour, le portail public gratuit de l'État qui va exister, ou la solution de votre comptable. Il faut juste lier votre sirène à une boîte aux lettres.
C'est juste un petit clic administratif, en gros. Et après...
Étape 4, n'attendez pas 2027 pour commencer à émettre. Dès que votre logiciel est prêt, lancez-vous. Le logiciel gérera la transition en douceur. Il enverra des PDF tant que c'est légal et il allumera le code invisible quand il faudra.
Au final, on retient que la techno va faire tout le boulot.
C'est le message principal, oui.
C'est rassurant, franchement. La migraine diminue. Mais quand même, en prenant un peu de recul, il y a un truc qui me chiffonne dans nos sources.
Quoi donc?
Pour pré-remplir nos déclarations. C'est sympa. Mais avec ce combo invoicing et e-reporting, l'administration va avoir une vue absolue, en temps réel, sur chaque transaction du pays.
C'est vertigineux, c'est vrai.
La petite facture de la coach, le paiement du designer, l'abonnement du développeur, tout remonte aux impôts à la seconde près. C'est pas un peu genre un basculement complet du rapport de force entre le citoyen et l'État ?
C'est la grande question philosophique de cette réforme. Avant, on était dans un système déclaratif. L'indépendant déclarait sa foi et l'État contrôlait après coup.
La fameuse confiance a priori ?
Voilà. Là, on rentre dans une ère de transparence totale et de surveillance quasi algorithmique. C'est le panoptique financier intégré directement dans notre quotidien.
C'est un peu flippant ! L'État valide nos actes commerciaux à la seconde où ils existent. C'est une grosse réflexion à garder dans un coin de la tête pendant qu'on choisit tranquillement son futur logiciel pour pas payer d'amende.
C'est clair. Une réforme très technique en apparence, mais qui change fondamentalement la place de l'indépendant dans la société.
Eh bien voilà, ça boucle notre exploration. On a démystifié l'encre invisible du format Facture X, on a compris le piège du calendrier de 2026 et on a sauvé vos 1000 euros des griffes des vendeurs de peur.
L'essentiel, c'est d'anticiper sereinement avec le bon outil.
Merci d'avoir débroussaillé cette jungle avec moi.
Avec plaisir, comme toujours.
Et pour ceux qui nous écoutent, prenez une minute pour cocher la première case de la to-do list et on se retrouve très vite pour décortiquer un nouveau sujet.